2. Je t'ai repérée parce que tu étais belle. J'étais debout accoudée au comptoir, à cuver mes nuits trop courtes en lisant les nouvelles du jour, ou en écoutant les conversations de mes voisins de sucriers, et je t'apercevais dans le miroir au-dessus du bar. Tu étais toujours assise là-bas, tout au fond, à la même place. J'admirais ton allure, ton maintien, ta distinction, tes mains. J'aimais ta gaieté, tes sourires, cette façon d'être là et complètement ailleurs, comme si tu venais de quitter les bras d'un être aimé ou que tu t'apprêtais à les rejoindre. Tu étais sexy et l'on te devinait intelligente. Tu étais parfaite. Et pourtant, il y avait toujours chez toi un je ne sais quoi de dépenaillé. Une mèche, un col, un pli, un bracelet de montre trop lâche, un sac à main fourbu, une ceinture sortie du rang, une commissure, des cernes qui te rendaient, j'allais écrire irrésistible, mais c'est trop attendu. Irrévocable, oui, irrévocable. Depuis que Paris existe, on a beaucoup fantasmé, disserté, discouru sur la Parisienne, et quand je te regardais, je me disais, voilà, c'est cela, c'est elle, et c'est sans appel. J'étais d'autant plus sensible à ta beauté que le miroir me renvoyait aussi mon triste pendant et que je me remettais à touiller mon café dès que je l'apercevais. Je ne ressemblais à rien. J'avais mauvaise mine, j'étais maigrichonne. J'alternais les deux mêmes jeans depuis des mois. Je portais les chemises de mon mort, les cachemires de mon mort, les foulards de mon mort, les écharpes de mon mort et ses vestes aussi. J'avais fait couper mes cheveux très courts pour ne plus m'embarrasser à les coiffer. Je ne me maquillais plus, je ne me parfumais plus. Je ne courais plus, mais je ne quittais jamais ma paire de baskets. J'avais une carie, deux peut-être, que je ne songeais pas à faire soigner. Je buvais trop, j'étais déshydratée, mes mains étaient rêches, ma peau était sèche, mon corps était sec et tout en moi avait mauvaise haleine. Tu m'as avoué depuis que tu m'observais aussi et que tu m'enviais ma classe et ma décontraction. Quelle blague! Tu avais remarqué la finesse des pans de coton sur les poches de jean élimées, la douceur des cardigans trop longs, dont les poignets me tenaient lieu de mitaine, et la qualité du tweed et des étoffes sous lesquelles je m'ensevelissais. Tu trouvais ça d'un chic, disais-tu, d'un chic. Tu commandais toujours un crème et une tartine, dont tu ôtais le surplus de beurre avec ta petite cuillère, et tu passais le plus clair de ton temps à texter. Et tu étais penchée sur l'écran de ton téléphone et tu souriais. Il n'était pas difficile de deviner que tu étais amoureuse et que tu commençais tes journées en papotant avec un homme, une femme, qui te rendait heureuse. Quelquefois tes sourires étaient plus humectés et tes fossettes plus coquines. Comment dit-on quand on sourit en textant du sexe? Que l'on commence la journée en sextant. Oui, chaque matin tu mordais à pleines dents dans un tronçon de baguette fraîche trempé dans du café au lait, tout en faisant le point sur ta vie avec quelqu'un que tu aimais, c'était évident. D'autres fois, ton téléphone restait dans ton sac, où il était posé près de ta tasse et demeurait silencieux. Tu étais toujours aussi jolie, mais tu avais l'air un peu perdue, déboussolée. Ces jours-là, il t'arrivait de regarder autour de toi. Et il me semble bien que nous nous adressions alors un petit sourire de connivence. Rien d'amical, en vérité. Simple courtoisie entre habitués du même raffio. On évoque souvent la dureté des Parisiens, mais on ne dit jamais ces complicités connues d'eux seuls. Ainsi étions-nous devenues familières. Mais peut-être ne nous serions-nous jamais adressé la parole si la maîtresse de Raphaël n'était pas tombée malade et que je n'étais revenue un matin au café de la Sorbonne avec mes deux marmots en bandoulière. Nous nous sommes attablés à côté de toi, à dessein, je l'avoue. Et nous n'étions pas encore assis que tu mangeais déjà ma petite fille des yeux. Alice, à qui la vie n'avait pas encore appris qu'elle n'était pas une princesse véritable, a répondu à ton avidité en te gratifiant d'un grand numéro de charme, et je te voyais fondre tandis qu'elle te présentait son doudou, puis celui de son frère, son tatouage malabar, puis celui de son frère, ses agates, puis celle de son frère, tout en croisant et décroisant ses jambes potelées, et en réajustant continuellement la minuscule barrette pailletée qui était son diadème. Il faudrait savoir l'écrire un jour, la vénusté des toutes petites filles. Les enfants ont monopolisé ton attention, et nous nous sommes à peine parlé ce jour-là. J'ai su que tu t'appelais Mathilde parce que Raphaël te l'a demandé, mais moi je n'ai rien dit. Je me taisais, parce que j'avais à peine dormi, je me taisais parce que j'allais devoir me ravitailler avec les enfants dans les jambes et que cela me contrariait, voilà. C'est cela l'alcoolisme. C'est approcher une femme qui vous fait rêver depuis des semaines, grâce à la lumineuse présence de deux enfants, lesquels, en plus d'être exquis, ont le bon goût d'être les vôtres, de partager avec eux trois un petit déjeuner hors de prix dans le café d'une ville qui fait rêver, elle, le monde entier, et de ne penser qu'à une seule chose, pire même, de n'être obsédé que par une seule pensée, sous quel article, et là on pense taille, on pense volume, on pense paquet de céréales par exemple, vais-je cacher une bouteille de Johnny Walker dans le panier en plastique merdique de l'épicerie minable d'en bas de chez moi? Je me taisais parce que je n'avais rien à dire. Je me taisais parce que c'était trop assourdissant, le vacarme là-haut. Je me taisais parce que j'avais perdu l'habitude de parler. Je me taisais parce que j'avais perdu. Tu n'es pas venu au café de la Sorbonne les jours suivants. Ensuite, il y eut des vacances scolaires, celles de février, je crois. Et un matin, alors que j'avais perdu l'habitude de te chercher du regard, tu es venu te cramponner au bar près de moi. Tu m'as salué, tu as commandé un café allongé et nous sommes restées silencieuses. Alors que je me déhanchais pour attraper quelques pièces de monnaie au fond de ma poche, tu as posé ta main sur mon avant-bras, tu m'as dit « Laissez, je vous l'offre ». Et c'est seulement là, à ce moment-là, quand j'ai tourné la tête vers toi pour te remercier, que j'ai vu ton visage en vrac. J'ai posé ma main sur la tienne et tu t'es mise à pleurer. « Pardon, riais-tu, t'excusais-tu, te désolais-tu, pardon, pardon ?» J'ai laissé ma main où elle était et j'ai cessé de te regarder. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi sans bouger, toi me confiant ton chagrin et moi le chapeau tendu mien. À un moment, tu as murmuré « Vos enfants, comme ils sont mignons !» et je me suis effondrée. Le patron du bar s'est approché en nous houspillant gentiment. « Et alors, mesdemoiselles, et alors, on n'est pas bien chez moi? Et vous allez me faire fuir toute la clientèle, là? Qu'est-ce que je vous sers pour vous détendre? Un petit calva? Tu penses si j'étais contente ?» Nous l'avons bu cul sec. Tu t'es étranglée, j'ai de nouveau respiré, et sous l'effet libérateur de ces quelques centilitres d'hélium dans mes veines, je t'ai proposé de venir dîner à la maison le soir même. Tu m'as souri. Je t'ai demandé si tu avais de quoi écrire et j'ai recopié sous un sous-boc l'adresse de mon petit logis et interphone oblige le nom de gens qui n'étaient pas nous.